Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on va décortiquer un véritable séisme politique. Imaginez un parti au pouvoir qui se retrouve littéralement rayé de la carte en une seule nuit.
Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé en Mongolie ce 29 juin. Avec une participation massive, au passage, on parle de plus de 74%.
C'est ça. Les électeurs ont complètement balayé le Parti démocrate sortant. Le verdict est vraiment sans appel. Le Parti du peuple mongol, donc le PPM, rafle 65 des 76 sièges du Grand Khoural, l'Assemblée nationale.
Et les démocrates n'en gardent que 9. C'est une claque monumentale.
Ah, mais totalement. Et du coup, la vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si cette alternance spectaculaire prouve la force et la maturité de la démocratie mongole ou si c'est juste un trompe-l'œil qui masque une impasse économique structurelle.
Tandis que moi, je soutiens que cette majorité est avant tout une distorsion institutionnelle et que ça ne résoudra en rien la dépendance du pays.
Exactement. Moi, je suis persuadée que c'est un vote d'une lucidité implacable. Les électeurs, qu'il s'agisse des jeunes diplômés d'Oulan-Bator ou des éleveurs nomades, ils ont puni un bilan qui était juste catastrophique.
Bah, le bilan économique surtout, non ?
Bah oui, surtout ça. Ils ont réagi face à la chute de leur monnaie, le tugrik, à la flambée de la dette publique et au scandale. Il faut bien se rendre compte de l'impact sur le terrain. Beaucoup de familles mongoles ont contracté des emprunts en devises étrangères.
Ouais, donc quand le tugrik s'effondre...
Voilà, le montant de leur dette double littéralement du jour au lendemain, sans qu'ils aient emprunté un seul centime de plus. Donc avoir cette capacité à balayer pacifiquement un gouvernement face à une telle crise, surtout coincé entre la Russie et la Chine, c'est une respiration démocratique exceptionnelle, quoi.
Non mais attends, c'est une belle histoire, sauf que cette hégémonie parlementaire, c'est un mirage total. Comment un parti obtient 76 sièges sur 76 sans faire un vrai raz-de-marée dans les urnes ?
Eh ben, c'est le mode de scrutin qui veut ça.
Exactement, c'est la magie du retour au scrutin majoritaire uninominal. Concrètement, dans ce système, le candidat qui arrive en tête, même avec une avance minuscule, il rafle le siège. Le PPM a simplement profité de cette mécanique, du vainqueur rafle tout.
Mais ils ont quand même gagné le vote populaire.
Oui, mais ça transforme une avance en voix assez modeste en une domination écrasante au Parlement. Les Mongols ont voté par pure lassitude financière pour desserrer l'étau, tu vois. Pas par adhésion au programme du PPM, le parti a juste surfé sur la colère.
D'accord, je te l'accorde. Le mode de scrutin a mathématiquement amplifié le résultat. Mais le message de la rue reste d'une clarté absolue. Cette jeunesse dont on parlait a fait de ce scrutin un véritable exutoire.
Un exutoire, certes, mais...
Mais cette super majorité, elle sort pas de nulle part. Elle incarne un mandat clair, sans aucune ambiguïté. Les citoyens exigent des résultats et ils les veulent vite.
Sauf que ce mandat, c'est un cadeau complètement empoisonné. Le futur Premier ministre, Jargal Tulgin Erdenebat, il va se retrouver totalement piégé. En écrasant l'opposition de cette façon, il n'a plus aucun fusible, plus aucune excuse en cas d'échec.
C'est vrai que la pression va être immense sur ses épaules.
Ah, mais il est pris en tenaille. D'un côté, il y a la population qui exige une baisse immédiate du coût de la vie, et de l'autre, les créanciers internationaux qui réclament une austérité de fer. Avec le mur de la dette extérieure qui approche, le pays file droit vers les mesures drastiques du FMI.
C'est indéniable. La pression financière va être redoutable. Mais le Premier ministre n'aura pas les pleins pouvoirs absolus non plus. On oublie un peu vite un contre-pouvoir essentiel, la présidence.
Ah, tu penses à Elbeck-Dorje ?
Oui, Tsakhyagin Elbeck-Dorje, qui est du camp démocrate et qui reste en poste jusqu'à l'année prochaine. Cette cohabitation inédite va forcer des arbitrages très tendus, mais vitaux, notamment pour les méga-projets miniers comme Oyu Tolgoï.
La fameuse mine de cuivre.
C'est ça. Oyu Tolgoï, c'est la véritable colonne vertébrale de l'économie mongole. Au fond, licencier le gouvernement actuel, c'est un peu comme virer le capitaine d'un navire en pleine crise parce que le vent est tombé. Ça prouve au moins que l'équipage a le pouvoir de reprendre la barre, même s'il ne contrôle pas la météo.
Mais ton analogie illustre exactement le problème. À quoi ça sert de changer de capitaine avec autant de brutalité si on ne contrôle pas la météo ?
Bah, au moins on change de direction.
Mais le Grand Khoural ne dicte ni le cours mondial du cuivre ni celui du charbon. Ces prix-là, ils se fixent dans des bureaux à Londres ou à Shanghai, pas à Oulan-Bator. La chute des matières premières et le ralentissement chinois, c'est des réalités implacables qui échappent totalement au nouveau gouvernement.
C'est sûr qu'ils n'ont pas la main sur tout.
L'équipage a changé la direction, ouais, mais le navire reste complètement à la merci des marchés mondiaux.
Ce qui nous ramène finalement au cœur de notre débat. D'un côté, on a une mécanique d'alternance qui a parfaitement fonctionné. Les citoyens ont vu que les promesses n'étaient pas tenues et ils ont utilisé les urnes pour exiger des comptes. La responsabilité politique, c'est pas juste une illusion.
Tout à fait. Et de l'autre côté, on se heurte très brutalement au plafond de verre de la souveraineté économique. Le pouvoir réel d'un élu local s'évapore très vite quand l'économie dépend quasi exclusivement des marchés extérieurs, tu vois.
Ce qui laisse chacun d'entre nous face à une réflexion beaucoup plus large. Quelle est la véritable portée d'un vote national quand les leviers de la prospérité sont mondialisés ? L'équipage a prouvé qu'il était maître à bord. Un nouveau capitaine tient le gouvernail. Mais au final, tout le monde scrute l'horizon, en espérant que le vent se lève enfin.